au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous. Sporama, c'est parti pour 30 minutes d'informations sportives, d'analyse et de débat avec mon consultant qui déjà m'ont rejoint. Le premier est en direct de Porto Novo, la capitale béninoise. Bonsoir Lawal Dine Kosuro.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
À Libreville, au Gabon, nous avons le doyen Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Amine Birouk, lui, est à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis on retrouve à Columbus, dans l'Ohio, à Médine, si bien logé. Bonsoir Médine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Ce soir, on parlera de la première édition de la Ligue africaine de football, remportée par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et puis, le bon début des représentants africains au Mondial de football des moins de 17 ans qui se déroule en Indonésie. Sporama, c'est parti. Les Mamelodi Sundowns remportent la première édition de la Ligue africaine de football. Après avoir perdu 2-1 en finale aller face au Wydad de Casablanca, les Sud-Africains l'ont emporté 2-0 au retour grâce à la star Peter Chulile et Audrey Modiba. Alors Amédine, le club de Pretoria est à jamais dans l'histoire.
Tout à fait Élisée, car les Sud-Africains ont remporté de fort belle manière, puisqu'il faut dire que les Sud-Africains ont maîtrisé ce match de bout en bout. Ils ont fait le match parfait, alors que les Marocains n'ont pas existé dans ce match. Les Brésiliens d'Afrique, d'ailleurs, ont fait l'essentiel, puisqu'il fallait marquer un but. Ils l'ont fait. Ils ont marqué un but à la 45e minute plus 3, c'est-à-dire juste avant la mi-temps, avant de doubler la mise. Ensuite, ils ont géré ce match pour inscrire leur nom de la plus belle des manières dans l'histoire de cette compétition. Il faut dire que c'est une belle victoire et une belle consécration pour cette équipe d'Afrique du Sud. Élisée.
Et l'équipe sud-africaine ajoute donc un troisième titre africain à son palmarès après la Ligue des champions de 2016 et la Supercoupe d'Afrique en 2017. En revanche, un nouveau revers en finale pour le WAC. Alors, Amine, c'est ton coup dû après la finale de la Ligue des champions perdue la saison écoulée devant Al Ahly du Caire.
L'équipe de Mamelodi Sundowns est un juste vainqueur de la première édition de l'African Football League. Il faut dire que les Sud-Africains ont dominé de bout en bout le match retour face à un Wydad de Casablanca qui a complètement déjoué. Un succès 2-0 qui en dit long sur le parcours de cette équipe sud-africaine depuis le début de la compétition, puisque coup sur coup, Mamelodi Sundowns a ajouté à son tableau de chasse Petro Atlético, El Ahly au terme de deux manches très disputées, et puis le Wydad de Casablanca. Et seul le Wydad, au moins lors du match aller, avait poussé les Sud-Africains dans leur dernier retranchement avec un succès 2-1. Un succès que le Wydad voulait garder, un avantage que l'équipe entraînée par le jeune Adil Ramzi souhaitait préserver. Mais l'impression hier, c'est que l'équipe sud-africaine a su accélérer au bon moment, profiter de ses temps forts face à une équipe du Wydad qui a complètement refusé de jouer. Défensif, dès le début de la rencontre, les Rouges et Blancs n'ont jamais pu enchaîner les temps de jeu, ni des possessions, ni des transitions, se contentant de repousser les assauts maladroits des adversaires avant de succomber dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une frappe repoussée par le Moter et reprise par la star de cette équipe sud-africaine qui avait manqué le match aller. Puis après le repos, en dépit du coaching de l'entraîneur de Wydad, l'équipe de Mamelodi Sundowns a continué à appuyer sur le champignon, marquant un deuxième but sur une erreur défensive assez grave de l'équipe du Wydad de Casablanca. Et à partir de là, Mamelodi Sundowns a joué de conserve, a cherché à préserver le résultat et a pu jusqu'au bout maintenir cet avantage, non sans avoir été menacé à une ou deux reprises sur des coups de pied arrêtés du Wydad de Casablanca qui aura complètement manqué cette manche retour. Le Wydad vient de perdre 3 finales consécutives de compétitions africaines. Il y a eu la Supercoupe d'Afrique face à la Renaissance sportive de Berkane. Il y a eu la Champions League devant l'Ahly la saison dernière. Il y a maintenant un nouvel échec contre l'équipe de Mamelodi Sundowns lors de la première édition de l'African Football League. Une édition marquée par le saut de cette équipe sud-africaine qui ajoute un deuxième sacre africain à son palmarès après la Champions League remportée en 2016.
Merci Amine. On vient vers vous Jules. Finalement, cette nouvelle compétition a marqué tous les esprits et la CAF doit revoir le format.
C'est une évidence Élisée. Cette première édition de l'African Football League a marqué les esprits par le niveau incontestable de la production de jeux sur le terrain, digne du play-off qu'il était censé être. Son autre mérite est d'avoir donné à l'équipe la plus méritante de la saison écoulée, de Mamelodi Sundowns de Pretoria, l'occasion de passer un examen de rattrapage depuis son injuste élimination en demi-finale retour de la précédente Ligue des Champions contre ce même Wydad, où, par la faute d'un autogol concédé dans les dernières minutes, il avait dû sortir du circuit sans défaite par la logique du but concédé à domicile. Cette désillusion était restée comme une arête dans la gorge des Sud-Africains, pourtant dominateurs dans la phase de poule de la mort avec le Al Ahly du Caire et impitoyable en quart de finale contre le Belouizdad d'Algérie. Cette fois-ci, les Brésiliens de Pretoria ont pris à leur compte le cynisme tactique de leurs illustres adversaires et validé sans bavure leur victoire finale. Pour finir, si le succès sportif de cette nouvelle compétition d'élite est incontestable, il reste à la CAF de définir clairement les critères d'accès et le nombre de participants à ce play-off qui ne dit pas son nom, afin de pérenniser son existence.
On enchaîne avec une autre ligue, la Ligue des champions féminines en Côte d'Ivoire et Amine Birouk. Cette fois, le Maroc s'est bien illustré et aura 2 représentants en demi-finale. Une première dans cette compétition.
Le Maroc aura 2 représentants, effectivement, Élisée, mais il faut peut-être saluer tout d'abord la performance, le coup de cœur de la jeune formation du Sporting de Casablanca, fondée en 2017 et qui a débarqué dans cette compétition en tant que vice-championne du Maroc, championne de la Coupe UNAF, un privilège que l'équipe de la SFAR a laissé au Sporting de Casablanca, étant donné que les militaires étaient les tenants du titre de la 2e édition de la Champions League. Le Sporting de Casablanca a démarré piano la compétition avec un match nul contre l'Atlético Abidjan, une courte défaite 1-0 face à Mamelodi Sundowns avec un excellent match de la gardienne du but Imane Abdelahad. Et samedi, on a assisté au sursaut de cette équipe marocaine qui a dominé les champions de Tanzanie sur le score de 4-1. Un résultat largement suffisant pour permettre aux Casablancaises de disputer la demi-finale de la compétition face aux Ghanéennes de Darkwa. Justement, ce sont ces Ghanéennes qui ont empêché l'ASFAR de finir en tête du groupe B, qui avait pour chef-lieu San Pedro. Et les Phares ont donc démarré la compétition, leur défense du titre, par un échec inattendu face aux champions du Ghana 2-1. Et elles ont dû ramer, cravacher dur pour pouvoir rattraper ce ballottage défavorable avec 2 victoires face à Huracanes de Guinée équatorienne 1-0. Au cours d'un match où les joueuses de l'ASFAR ont rivalisé de maladresse devant le but. Et puis ce dimanche contre les champions du Mali, l'AS Mandé, le score était un peu plus conforme à la domination de l'ASFAR, notamment en première mi-temps. Une victoire 2-0 qui nous incitera à assister mercredi au remake de la finale de la saison dernière. Ce sera une finale avant la lettre entre l'ASFAR et Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns a survolé son groupe avec 9 points. L'ASFAR a donné l'impression de peiner et d'avoir des moments de doute, d'oubli, d'amnésie, notamment en défense. Et on verra si les championnes de la 2e édition de cette compétition continentale sauront monter le curseur pour rivaliser avec les grandes favorites pour la conquête du titre, l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns.
On rappelle les affiches des demi-finales et les Mamelodi Sundowns, irrésistibles aussi chez les femmes, seront opposées aux tenantes du titre marocaine de l'ASFAR, le remake de la dernière finale. Puis, le second représentant marocain, le Sporting Club de Casablanca, fera face aux gagnants d'Ampem Dankoa. Jules, les filles de Sundowns en réalisant d'ailleurs le sans faute en poule, affichent clairement leurs ambitions.
Cette ambition ne peut que s'affirmer, Élisée, si l'on tient compte de l'évolution actuelle du rapport de force dans le football féminin interne sur le continent, qui tourne irrésistiblement à l'avantage de deux pôles majeurs, ceux du Maroc et de l'Afrique du Sud, dont le leadership est le résultat logique du volontarisme affirmé et des moyens mis à disposition qui conduisent à ces résultats heureux. Au pays de Nelson Mandela, l'institution sportive de qualité qu'est devenue le Mamelodi Sundowns a saisi au rebond l'injonction de la FIFA et de la CAF de voir les grandes équipes du continent développer parallèlement et à même hauteur un programme féminin. L'excellente prestation de la sélection sud-africaine à la dernière Coupe du monde du genre en Australie et en Nouvelle-Zélande n'est qu'une des illustrations de la réussite de cette dynamique dont le Mamelodi Sundowns constitue un des laboratoires majeurs. Déjà finaliste malheureux lors de la dernière édition en terre adverse, le club de Pretoria, version féminine, ne vise pour cette Ligue des champions en Côte d'Ivoire ni plus ni moins que le titre et son parcours immaculé jusque-là peut l'attester. Le grand rival marocain est donc averti.
On revient vers vous à Medine Sy. L'AS Mandé de son côté a pourtant cru après sa victoire de la deuxième journée. C'est tout simplement une déception pour les Maliennes.
Ah oui, Élisée, les Maliennes, bon, qui avaient créé la sensation hein, en s'imposant devant les Ghanéennes par 3-0. Mais elles n'ont pas pu sortir de ce groupe très difficile, hein, puisque c'était un groupe difficile. Même la tenante du titre, la SFR, a terminé à la deuxième place derrière les Ghanéennes, ce qui veut dire que dans ce groupe, il y avait les équipes se valaient. Mais c'est comme ça, les Maliennes ont fait l'essentiel. Elles n'ont pas été ridicules. Elles ont tout fait. D'ailleurs, elles ont eu à signer leur première victoire de cette compétition après 5 matchs, c'est déjà une bonne chose. Donc, elles vont repartir au pays, se préparer pour revenir plus fortes. Élisée.
On prend la direction de l'Indonésie pour parler de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Et après avoir réussi son entrée, le Maroc s'incline 2-0 devant l'Équateur pour son second match. Alors, Amine, les Lionceaux sont désormais condamnés à faire un bon résultat face aux pays hôtes.
Il faut dire que nous avons des sentiments mitigés ici au Maroc après ces deux rencontres face à Panama et à l'Équateur. Autant il y a eu un satisfecit après la première prestation, victoire 2-0. Des convictions de jeu, notamment pendant la première mi-temps. On a vu une équipe qui a démarré tambour battant, qui a imposé son rythme de jeu. Nous avons assisté à la même configuration face à l'Équateur pendant les 25 premières minutes avec une équipe ambitieuse. La suite, même s'il y a eu victoire face au Panama, et surtout si, quand il y a eu défaite face à l'Équateur, laisse planer un vent d'inquiétude parce que l'équipe a peiné physiquement. A eu du mal à terminer les rencontres, a semblé manquer de plan B, et c'est le cas contre l'équipe de l'Équateur. Ce qui ne nommait pas quand même, ou ce qui n'enlève pas le mérite des joueurs, qui ont, je dirais, des aptitudes, une combativité, une rigueur tactique, sont ces vertiges qui ont amené la victoire lors du premier match, avec notamment une application sur coup de pied arrêté sur la tête de Schlarmo, le défenseur central de l'ASFAR. Des aptitudes à jouer dans les intervalles, les contres et les coiffons avec le deuxième but de Neyer contre Panama. Mais il y a eu ensuite beaucoup d'erreurs contre l'équipe de l'Équateur. D'ailleurs, les Équatoriens n'ont pas eu à se créer des occasions. Le Maroc s'est fait harakiri avec une erreur de Hinesh à 25 minutes de la fin qui aboutit à un pénalty. D'une naïveté. Et puis, un autre cadeau en toute fin de rencontre du défenseur Berti. Une passe trop molle, intercepté, qui a crucifié le gardien Ben Rosil et qui met le Maroc devant ses responsabilités jeudi. Il va falloir affronter le pays hôte dans des conditions différentes en termes d'ambiance, de public. Une sélection qui a réussi à ramener ses premiers points de la compétition et qui ambitionne de passer le cap du premier tour. Les conditions météo ne changeront pas, humidité et chaleur. Il va falloir se transcender pour pouvoir réussir à passer, quitte à faire partie des meilleurs troisièmes de la compétition, ce qui ne serait pas une mince affaire ni une mauvaise affaire pour le Maroc.
Le Mali aussi doit remporter son troisième match contre le Canada prévu jeudi prochain. Lawal, les Aiglons se sont mis en difficulté tout seuls suite à leur défaite 1-0 contre l'Espagne.
Non, c'était une défaite prévisible. L'Espagne était un cran plus haut et plus fort que les jeunes Maliens. Condamnés à l'exploit, oui, exploit inévitable, il faut le préciser. Et on espère qu'ils vont se relancer. Et comme les Canadiens aussi vont vouloir assurer une bonne place dans leur groupe, ça va pas être assez facile, mais impossible n'est peut-être pas malien. Et les Maliens ont intérêt à sortir le grand jeu afin d'accrocher ce ticket-là pour se retrouver donc au tour suivant de cette compétition, Élysée.
Après aussi sa victoire inaugurale 2-1 contre l'Argentine, le Sénégal affronte demain la Pologne. À Médine, les Lionceaux attendus doivent enchaîner.
Oui, Élysée, le Sénégal qui a entamé cette Coupe du Monde des moins de 17 ans de la plus belle des manières en dominant l'Argentine par 2-1 grâce à un doublé de Amara Diouf tentera d'enchaîner face à la Pologne, mais ce sera très difficile puisque les Polonais ont perdu leur premier match face aux Japonais. Donc, ils vont tenter de se relancer face au Sénégal. Donc, on s'attend à un match très difficile pour les Lionceaux, mais le Sénégal pourra une nouvelle fois miser sur son phénomène. Je veux parler de leur maître à jouer, le jeune Amara Diouf. En tout cas, les Poulains de Serigne Saliou Dia doivent bien négocier cette rencontre parce que en cas de victoire, ils peuvent composer leur ticket pour le second tour, Élysée.
De son côté, le Burkina Faso va chercher à se reprendre après sa défaite 3-0 contre la France. Justement, Jules, les étalons cadets doivent alors réagir face aux États-Unis.
Élysée, le Burkina Faso qui a lourdement chuté d'entrée contre la France est déjà dos au mur. Les jeunes Burkinabés sont tombés sans jamais en sortir dans le piège tactique tendu par une formation française aux atouts physiques très africains. Des Français qui se méfiaient des qualités techniques individuelles et collectives affichées par les jeunes étalons lors de la CAN qualificative en Algérie il y a peu, où l'adversaire du jour était apparu très à l'aise dans les phases offensives et le jeu en profondeur à l'image du Sénégal et du Mali. Attendu sur la base de son jeu latin, la France a surpris en proposant un commando très physique qui a désarçonné l'équipe burkinabé, l'amenant à déjouer complètement et a concédé faute inhabituelle et pénalty sans que le staff technique n'arrive à recadrer son groupe. C'est donc un match à oublier et contre les États-Unis au prochain rendez-vous, eux qui aiment proposer un jeu ouvert dans les catégories jeunes, les Burkinabés ont l'occasion de présenter leur véritable visage. Là, ça passe ou ça casse.
On termine avec la première journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Et ça commence ce mercredi avec les matchs Guinée-Équatoriale-Namibie, Rwanda-Zimbabwe, RD Congo-Mauritanie et Éthiopie-Sierra Leone. Le lendemain, Jules, le Gabon reçoit le Kenya. Ce sera une occasion pour les Panthers de faire oublier leur élimination pour la CAN de 2024.
Assurément, Élysée. C'est une occasion pour les Panthers du Gabon de faire oublier leur élimination récente de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, surtout que le groupe F dont ils font partie leur propose des adversaires somme toute jouables. Lors du tirage au sort, les chapeaux inférieurs leur ont attribué les Seychelles, le Burundi, la Gambie et le Kenya, des obstacles qu'un Gabon au haut de la vague peut légitimement sauter. et même la tête de poule, la Côte d'Ivoire, se produit dans un registre technique et un schéma offensif qui convient habituellement aux Panthères, fidèles adeptes du contre. En fin de compte, une bonne occasion de rebondir. Cependant, il faut d'abord bien négocier le match piège contre le Kenya en ouverture, une équipe très physique, à l'exemple de la Mauritanie, qui n'est pas un bon souvenir récent en matière d'opposition de style. Mais le nouveau staff technique des Panthères, constitué de nationaux, aura sûrement à cœur de réussir son entrée et d'ouvrir une nouvelle page pour le football gabonais.
Lawal, le Bénin, lui, sera en Afrique du Sud pour cette première journée.
Oui, et ils ont intérêt, les Guépards, à faire oublier très vite à leurs supporters les contre-performances auxquelles ils ont été habitués depuis plusieurs années. Et à l'absence de Cesseillon et de Khaled Adenon, on espère qu'ils vont véritablement mouiller le maillot pour redonner espoir au peuple béninois qui a tant souffert de ces différentes éliminations à la CAN et à la Coupe du Monde. La dernière en date, c'est face au Congo. Enchaîner les contre-performances de cette façon-là, ça sort de l'ordinaire. Maintenant, Guénot a compris qu'il faut commencer par tester, par construire une équipe et s'appuyer sur des valeurs, des locaux, afin de relancer carrément l'équipe nationale béninoise de football, Élysée.
Merci Lawal. Alors, Amédine, le Sénégal commence par le Soudan du Sud. Ça ne va pas être trop difficile pour les champions du monde, on pourra le dire comme ça.
Élysée, ce match sera un match piège pour les champions d'Afrique car ils vont affronter un adversaire qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Surtout que ce match contre le Soudan du Sud se jouera à huis clos. Donc Sadio Mané et ses partenaires ne pourront pas bénéficier quand même de l'appui de leur public puisque le stade Abdoulaye Wad a été suspendu, mais ce sont les sanctions de la FIFA après les incidents qui avaient émaillé la rencontre Sénégal-Égypte. On se rappelle encore de cet épilogue. En tout cas, le Sénégal doit tout faire pour bien débuter ses éliminatoires. C'est clair que Aliou Cissé, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, a déjà réussi à qualifier le Sénégal à deux reprises lors des deux derniers mondiaux. Je vous parlais de la Coupe du Monde 2018 et de la Coupe du Monde qui vient de se dérouler au Qatar. Donc, il voudra poursuivre ce lancer et cela passe par une victoire pour ce premier match réalisé.
Voilà qui est clair. Pour le reste, Amine, le Maroc demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde est attendu.
Et l'équipe du Maroc ne va avoir qu'un seul objectif, c'est le 21 novembre à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Donc les hommes de Walid Regragui, demi-finalistes de la Coupe du Monde, vont démarrer piano à piano cette compétition après le retrait de la sélection érythréenne. Le Maroc va devoir bien évidemment préparer patiemment cette expédition sur safari en Tanzanie. Et le groupe appelé par Walid Regragui à défendre les couleurs du royaume chérifien est composé de 25 joueurs. Une ossature qui a disputé la Coupe du Monde à hauteur de 90%. Quelques revenants, notamment le joueur de la Gantoise Tarek Tissoudali qui avait manqué la dernière Coupe du Monde pour cause de blessure, tout comme Ayoub Kabi, le buteur de l'Olympiakos, qui prend la place du très controversé Abdelrazak Hamdallah. Et puis, un nouvel appelé, le petit nouveau du groupe, il s'agit de Sofiane Diop, le jeune joueur de l'OGC Nice. Il avait la possibilité d'opter pour trois nationalités puisqu'il est né en France. Il a disputé ou il a fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes en France. Il a le papa qui est sénégalais et il y avait des pourparlers avec la fédération sénégalaise. Mais finalement, c'est la nationalité de la maman et peut-être les arguments de l'équipe du Maroc et peut-être un peu plus d'attachement aux couleurs du Maroc et aux racines marocaines qui l'ont incité à choisir les Lions d'Atlas. On verra quelle plus-value il apportera à un groupe qui ne doit pas s'endormir sur ses lauriers et qui va devoir très certainement répondre aux défis de la sélection tanzanienne, un adversaire que les Lions de l'Atlas retrouveront lors de la prochaine CAN. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une étape vers la Coupe d'Afrique des Nations selon Walid Regragui. Ce sont deux objectifs différents mais tellement complémentaires que le Maroc souhaite réussir. Entamer de bon pied les éliminatoires de la Coupe du Monde et se projeter ensuite vers la prochaine édition de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup Amine pour toutes ces explications. Sporama qui s'achève, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.